L'autre bistrot, l'école et Saint-Geneviève.
Asseyez-vous. Bon, il faut commander quelque chose au monsieur et puis après, ça peut, tenez, après on va pouvoir commencer à parler. Ouais, par exemple.
Alors, on voyait la note, non, ils sont les
déjà faits,
ils auraient pu
Moi, je suis arrivé ce matin. Au Buenos Aires. Il y avait le Premier ministre en Argentine.
Ah oui,
non, je l'ai vu à la télé, pas tout le monde.
Dans l'IB, il y en a. Vous avez vu l'IB ce matin?
Qu'est-ce que vous prenez? Moi, je vais prendre. On peut se serrer si vous voulez mettre une chaise de plus là.
Thank you.
Thomas.
Je vous écoute.
Alors, qu'est-ce que vous voulez commander?
Un déca.
Deux dans un déca.
Un chocolat.
Non, non, pas.
Deux dans un déca. Deux dans un déca.
Ah oui,
un chocolat.
Deux.
Et une eau minérale.
Ok.
Un jus d'orange pressé.
Oui, une orange pressée. Ok, j'arrive pour le reste.
Il a une petite mémoire. Alors, bon, et bien écoutez. On va profiter de la circonstance assez exceptionnelle pour faire le tour des interrogations, parce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté à ce cours et d'autres qui viennent pour la première fois, qui ont lu l'annonce qui a été faite dans le bulletin du collège. Alors, est-ce que moi, j'avais préparé évidemment une introduction. J'avais préparé quelque chose, mais je voulais vous faire des dessins au tableau. Ça va être dur parce que ça fait partie du marketing de la maison. Tu sais, nous sommes dans une civilisation extrêmement technologique. C'est grâce à ça que la psychanalyse existe d'ailleurs. Alors. La question, voilà, ça va.
On peut lui poser la question.
On peut lui poser la question.
On peut laisser l'image.
On va lui demander s'il peut baisser.
Si on s'ennuie, on pourra regarder l'image. Ça ne va pas faire
sérieux. Ah si, ça ne me dérange pas, ça. Moi, je veux bien parler avec une section rythmique. Ça me dérange pas. La voix, mais le problème, c'est que c'est embêtant pour les... Si je parle fort... Ça va être embêtant pour les autres.
C'est Nelly qui va lui demander son grand sourire.
Oui, Nelly va demander au garçon si on peut baisser la musique.
Oui, tu peux voir un tout petit peu ça.
Vous pouvez vous asseoir par là en prenant des pieds. Bon, alors qu'est-ce que vous préférez? Comment vous préférez qu'on procède? Est-ce que moi je trouverais bien que les uns et les autres entament la discussion de qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette proposition de parler du symptôme Joyce en tant qu'Hamlet? Et Freud dit, est-ce que le commentaire que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est Barbara Cassin qui m'a dit, t'es gonflé. T'es gonflé.
Chocolat.
Gonflé. Elle a trouvé gonflé. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé que c'était gonflé ou ça vous a paru attractif?
Deuxième des cas.
Voilà.
Pourquoi elle vous a dit
Alex.
Pourquoi elle vous a dit?
Ah, je ne sais pas, je n'ai pas encore demandé des explications.
Pourquoi elle vous a dit ça?
Elle est philologue, alors elle doit attendre que ce soit quelque chose d'assez précis en relation à la langue. Je ne sais pas ce qu'elle entend par Oedipe et par Hamlet. Hamlet, c'est quand même assez Shakespeare.
Voilà, je pense que c'est peut-être effectivement pour elle quelque chose qui tourne autour de qu'est-ce que l'Oedipe.
Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Oedipe?
Voilà.
Parce que.
Cette histoire.
Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions que. Parmi vous, est-ce qu'il y a. Quand vous avez lu l'annonce, vous avez pensé à lire parce que ça vous a attiré comment? Shakespeare?
Oui.
Plus que lire. Ah, très bien. Donc Joyce plus que Freud.
Ben, c'est ça la question.
Oui.
Bon, et alors, et vous avez noté que la proposition de lecture, c'est ce que je voulais vous commencer à vous expliquer aujourd'hui, c'est une lecture du séminaire Le Désir et son interprétation, croisée avec le séminaire de Lacan, Le Symptôme. Alors, est-ce que quelques-uns d'entre vous sont allés regarder dans Le Désir et son interprétation ce qui se passe ? Non ?
Trop tard.
Trop tard. C'est un des derniers séminaires de la première période de Lacan qui n'a pas encore été publié au Seuil. Les éditions du Seuil, qui publient l'édition officielle, a publié l'ensemble des séminaires de la période jusqu'à le transfert qui est immédiatement avant la seconde période du séminaire Lacan qui commence avec l'identification. Et tous les séminaires du début sont publiés sauf Le Désir et son interprétation. Sans doute parce qu'il pose des problèmes, il représente des difficultés dans la mise à jour, la mise au point du texte, n'est-ce pas ? Bon. Mais il existe, dans Le Désir et son interprétation existe à l'ALI, hein, et il existe sur le DVD, le CD, le disque gravé de l'ALI. Hein. On peut lire tous les séminaires de Lacan qui ont été publiés par l'ALI. C'est presque tout, sauf encore le séminaire 11, je crois qu'ils n'y sont pas, parce que c'est les premiers publiés au Seuil. Bon. Alors, est-ce que vous avez la notion que ma proposition, c'est la suivante, c'est de dire, le symptôme, c'est un remake par Lacan. Lacan refait une seconde fois, une seconde version du désir et son interprétation. Mais au lieu de faire son séminaire autour de Hamlet, il le fait autour de Joyce. Et la référence que je donne dans l'annonce, c'est une référence qui est dans un écrit de Lacan qui traite de Joyce. C'est le compte-rendu que Lacan a rédigé. Ça se trouve dans les autres écrits. Alors je l'ai amené là. Dans les autres écrits, un des derniers écrits de Lacan s'appelle Joyce le symptôme. Le symptôme. Donc, voilà, c'est dans les autres écrits au Seuil. Et c'est l'avant-dernier texte dans l'ordre chronologique. Hein ? Vous voyez, il y a après ce texte, ils ont mis des annexes, mais sinon il y a seulement la préface à l'édition anglaise. La préface à l'édition anglaise du séminaire 11, qui est un texte très court, de 4 pages. Et le symptôme, Joyce le symptôme, est très court aussi. Vous voyez, ça fait 6 pages. Alors dans ce texte, Joyce le symptôme, hein, c'est un texte que Lacan a rédigé après avoir participé au symposium Joyce à la Sorbonne, organisé par Jacques Aubert. Et c'est dans ce texte qu'il dit que Joyce est hystérique et que c'est parce qu'il ne se prend pas pour une femme, c'est la définition de l'époque. C'est la définition à ce moment-là que Lacan utilise de l'hystérie comme symptôme dernier qui ne veut pas être symptôme pour un autre corps et qui s'intéresse à un autre comme symptôme. C'est les définitions qu'il donne dans ce texte. Et là, il dit que Joyce donc est hystérique. Vous voyez, ça finit comme ça. Pardon de tout ça, ce n'est que pour spécifier de Joyce de sa place. C'est une curieuse expression, Lacan emploie spécifier de Joyce de sa place. Et donc il fait un petit exposé sur l'hystérie et sur le symptôme. Une femme est un symptôme pour un homme, et il y a des symptômes, il y a des sujets qui se refusent d'être une femme et qui s'intéressent aux autres comme symptômes. Et c'est des symptômes dits derniers, dits hystériques. Il semblerait que Lacan ait fait une série comme ça des corps. Et il traite cette référence qui est dans l'écrit, qui est là, elle se trouve à la fin du séminaire d'un autre à l'autre, dans les séminaires. c'est dans la fin de la dernière année, les dernières semaines d'un autre à l'autre, que Lacan traite de l'obsessionnel comme celui qui ne se prend pas pour un maître. Il parle du maître et de l'esclave qui sont en train de se courir après pour former une série à la manière de Fibonacci, et de la même manière pour l'homme et la femme. Voilà la première référence. Alors je vais avoir du mal à vous faire l'exposé que je voulais faire, parce que je voulais vous détailler les premières pages de la première leçon du désir et son interprétation. Je crois que je vais garder ça pour la semaine prochaine, qu'on le fasse dans des conditions qui seront peut-être meilleures, dans la mesure où c'est assez précis. Lacan introduit le symptôme à propos du désir, et il introduit la notion de désir, et il est très intéressant de voir comment il procède. Il s'intéresse au désir d'une manière assez remarquable déjà chez les poètes, et il dit que les poètes sont particulièrement... Il évoque la poésie qu'il appelle métaphysique, la poésie anglaise, il dit métaphysique, et en particulier il évoque un poème de John Donne qui s'appelle L'Extasie. Et ce poème et cette philosophie, il dit justement, déjà là, il dit, c'est justement, on va le voir cette année, c'est quand le poète s'arme de l'art dramatique qu'il est particulièrement à même de nous montrer ce que c'est que le désir. Donc vous voyez, ça c'est l'annonce de Shakespeare. Puisque dans cette année-là, il va consacrer 8 leçons à Hamlet et Shakespeare. Donc dès la première leçon, il parle de ça, et ensuite il parle du désir chez les philosophes. Pour conclure sur Spinoza, et vous verrez dans cette leçon, je vous conseille de lire les premières pages de cette leçon avant de rentrer dans les questions plus techniques qui concernent le graphe. Vous voyez, moi je vous proposais de vous arrêter au moment où il présente la question du graphe, du désir dont il a traité l'année précédente dans les formations de l'inconscient. Mais je vous propose de lire pour la prochaine fois les quelques premières pages du séminaire Le désir et son interprétation. Et je pense qu'il est très intéressant de réfléchir et de méditer sur les quelques références que Lacan prend, n'est-ce pas, pour introduire le désir et son interprétation. À propos du symptôme. Déjà à propos du symptôme. Alors là, il présente le symptôme de quelle manière ? Il le présente à la manière de inhibition, symptôme et angoisse de Freud. Hein. Il dit qu'il y a symptôme quand il y a inhibition. Qu'est-ce que le symptôme analytique ? C'est quand une fonction est érotisée. Et tout de suite, il va justement polémiquer avec... après les poètes, quand il va parler des philosophes et des psychologues, il va polémiquer avec la psychologie, parce que il va tout de suite parler du désir en tant que sexuel. Il va le sexuer immédiatement, et c'est là-dessus que je souhaiterais la semaine prochaine entrer plus précisément dans les coordonnées de ce désir sexuel et de son interprétation qui donne lieu aux symptômes. Bon, ça c'est un premier point. Il me semble qu'il faut être précis dès le début sur cette question pour savoir de quoi nous parlons, puisque nous allons parler du symptôme. Lacan va, dans son séminaire, appeler le séminaire le symptôme et pas le symptôme. Alors évidemment, c'est la première chose qui occupe tout le monde. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi Lacan fait la distinction entre le symptôme et le symptôme ? Alors que je vous ferai remarquer que Lacan intitule son séminaire, qui est réputé être le séminaire consacré à Joyce, il l'intitule le symptôme. Et parfois, il va dire de Joy que c'est un symptôme ou un symptôme comme on veut.
Un symptôme ou un symptôme comme on veut. Il y en a même qui ont dérivé sur la question aussi du symptôme.
Mais oui, mais vous allez trouver une référence à propos du symptôme. Vous allez trouver une référence chez Peter Brown, l'auteur, l'historien qui traite du symptôme, de la survivance du symptôme, puisque le symptôme, d'après Peter Brown, c'est une figure... Du christianisme et dans l'Antiquité tardive, c'est une figure qu'on trouve au Moyen-Orient. Hein. Et qu'est-ce que c'est que le symptôme ? Le symptôme, c'est la survivance du patron romain, pour Peter Brown. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il est associé par Peter Brome au culte des reliques. Bon, le symptôme, il y a deux sortes de symptômes au Moyen-Orient. Il y a les symptômes qui se mettent sur une colonne dans le désert, c'est des ascètes. Vous avez un très beau film de Buñuel qui s'appelle Saint-Simon du désert, et c'est un film entièrement consacré aux symptômes, qui est l'ascète, Saint-Simon du désert. C'est très amusant parce que c'est Buñuel, il fait ça d'une manière très divertissante. Et vous avez un autre type de symptôme au Moyen-Orient, c'est le notable. C'est ce qui survit chez nous comme député, comme maire, comme notable régional. C'est le patron, c'est-à-dire c'est le parrain de la mafia aussi. C'est la survivance du parrain, du patron romain qui, n'est-ce pas, s'occupait de la clientèle pendant que la femme, elle, s'occupait de la maison. Donc, le symptôme, c'est quand il est notable, il va à la capitale pour représenter la ville ou la région. Et c'est tout à fait déjà la notion de la députation, du sénateur. Le sénateur et le député sont des héritiers du saint homme de l'Antiquité tardive. Bon. Ça, c'est Peter Brome. Alors justement, c'est une question très intéressante, parce que c'est une survivance. Et ce qu'il va nous falloir regarder de plus près, c'est comment l'introduction par Lacan du symptôme, l'ancien mot latin, il le dit dès la première leçon, dès les premières lignes, il dit, j'ai mis ça sur l'affiche, symptôme, et orthographié de cette manière-là, parce que c'est l'écriture qui vient du latin, et qui a été transformée à l'époque, au moment où on a injecté du grec dans l'écriture du français, c'est-à-dire à l'époque justement de la grande époque de la philologie, de l'humanisme. Quand les textes grecs sont arrivés grâce au monde arabe jusque dans l'univers chrétien et latin, la langue française particulièrement, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple de l'italien et encore moins de l'espagnol, les Français ont injecté de la lettre grecque dans l'orthographe du français. Donc Lacan va rechercher l'ancienne orthographe. Alors pourquoi ça? Bon, ben ça, vous pouvez trouver la raison de ça. Je vous propose aussi d'aller regarder le séminaire de l'année précédente qui s'appelle RSI. Dans RSI, Lacan dit que le découvreur du symptôme, il le dit à l'époque comme ça, et c'est ce qui va nous conduire à cette notion de symptôme et de symptôme, il dit que c'est Karl Marx qui est le découvreur du symptôme, c'est Marx. Bon, alors, vous pouvez vous poser la question de savoir où est-ce que Marx parle du symptôme. Alors je vous donne tout de suite la référence, c'est une dame à Buenos Aires qui est allée chercher ça dans les brouillons qui accompagnent le Capital. C'est pas dans le texte du Capital. Marx parle du symptôme de la manière suivante, en disant que le symptôme, c'est une survivance, c'est quand un ancien mode de production se perpétue dans un nouveau mode de production. L'exemple qu'il prend dans le premier livre du Capital, c'est Don Quichotte, justement. Il dit que Don Quichotte commet une erreur, c'est de se tromper de système de production. Et vous voyez que pour nous, c'est très intéressant parce que c'est une référence littéraire. Parce que Don Quichotte, justement, là, ça nous met sur la piste de ce que c'est que le symptôme et le symptôme. Don Quichotte, c'est quelqu'un qui lit encore et qui croit encore à la parole du roi Arthur et qui lit la littérature médiévale, à une époque où Cervantes va se moquer de lui parce qu'on est passé dans un nouveau genre littéraire. Vous voyez, alors là, vous pouvez même lire Foucault. Foucault ne dit pas du tout et pas exactement les mêmes choses que Lacan, mais vous pouvez quand même lire dans Les mots et les choses toute la partie de l'analyse que fait Foucault du Don Quichotte, n'est-ce pas ? Et puis vous avez un très joli texte sur le Don Quichotte qui est écrit par... Un monsieur qui a écrit les habits neufs du président Mao qui s'appelle comment s'appelle-t-il? Simon Leys a écrit dans un livre qui est publié d'articles qu'il a écrit de trois articles qu'il a publiés sur Gide entre autres et sur Cervantes et Don Quichotte. Il écrit la manière dont lui, Simon Leys, il prend parti pour Don Quichotte contre Cervantes. Il dit que Cervantes n'aime pas Don Quichotte et que nous sommes des lecteurs du Quichotte et que nous sommes dans le camp du Quichotte. Nous ne sommes pas dans le camp de ces modernes qui se moquent de la littérature du médiéval, c'est-à-dire de la, de, de la littérature du cycle de Bretagne, de Chrétien III, vous voyez, les chevaliers de la table ronde. Bon, donc, vous voyez déjà qu'il y a entre symptôme et symptôme, entre le latin et le grec, il est question de quelque chose d'ancien et de quelque chose de nouveau, il y a une coupure. Et la référence à Marx, elle confirme ça. Alors, c'est très amusant parce que cette phrase de Marx sur le symptôme, quand il dit que c'est un ancien système de production qui fait symptôme dans un nouveau système de production, quand il y a eu changement mais il y a une sorte d'anachronisme, là, immédiatement après, il a cette phrase qui est très célèbre, que vous connaissez peut-être. C'est là qu'il dit qu'une meilleure connaissance de l'anatomie humaine nous fera mieux connaître l'anatomie du singe. Vous voyez, ce qui est absolument anti-darwinien ou le contraire de l'évolutionnisme ou des croyances, même aujourd'hui complètement, à mon avis, idéologiques. Vous voyez, des gens qui veulent expliquer la psychanalyse même par l'éthologie animale, comme les histoires de résilience, vous voyez, Marx dit exactement le contraire. Il dit, plus on étudiera la subjectivité humaine, ou l'anatomie, là lui il parle de l'anatomie humaine, Marx, plus on connaîtra l'anatomie du singe. Et cette phrase est assez célèbre, mais ce sont des brouillons du Capital, n'est-ce pas? Il y a deux volumes de brouillons qui ont été publiés. Je ne sais pas chez quel éditeur c'est publié en français. Moi je l'ai eu en espagnol. Comment? Sans doute aux éditions sociales. Bon. Si quelqu'un veut aller voir, veut aller retrouver ça, ça serait très bien d'indiquer. J'ai pas la page dans l'édition française. Moi, c'est une dame qui me l'a amené dans l'édition espagnole. Bon. Alors, maintenant, ça résout pas complètement le problème du symptôme et du symptôme, mais c'est une introduction au problème. Hein. C'est un problème qui va nous occuper. Et je vous proposerai pour avancer, sinon résoudre cette difficulté, pourquoi Lacan a choisi de parler de cette manière du symptôme et du symptôme. Bon, il y a la référence à Marx. Et ce que je vous proposerai de faire, ceux qui souhaiteraient faire quelque chose, de préparer un petit exposé ou qui souhaiteraient intervenir là-dessus, il serait bien de faire un relevé de toutes les occurrences du symptôme et du symptôme dans le séminaire Le Symptôme, pour voir à quel moment on peut attester en fonction du contexte que Lacan a bien dit symptôme ou symptôme. Et il y a des tas d'autres endroits dans le texte où on ne sait pas ce qu'il a dit parce que c'est très proche, et les enregistrements magnétophonés ou dactylographiés ne nous garantissent pas que Lacan a parlé plus du symptôme que du symptôme. Mais parfois, par contre, quand il se réfère au début, par exemple, à l'affiche où il est écrit symptôme, et quand il dit « je l'écris comme ça ici », là, on sait qu'il parle du symptôme écrit en latin. Et puis, des fois, il parle du symptôme, et puis alors aussi, il y a cet énoncé où il dit, quand il parle du père, il dit à un moment donné « un symptôme ou un symptôme, comme vous voulez ». Donc, ce qui prouve que là, ils sont substituables. Alors, c'est notable, parce que y a, à ma connaissance, il y a une citation, il y en a peut-être d'autres, où il pratique ce type de lien, n'est-ce pas? Mais il semblerait bien, et c'est là que je voulais faire un dessin au tableau, il semblerait bien que le symptôme est particulièrement introduit par Lacan en termes de réparation d'une chaîne qui aurait été ratée. C'est la notion que les élèves de Lacan, les auditeurs de l'époque, ont retenue de la notion de suppléance. Quand il y a un ratage dans le nœud, Lacan propose, n'est-ce pas, de voir que Joyce va suppléer à son ratage, et Lacan ne le dit pas, mais dans le séminaire de l'année précédente, dans RSI, il dit que Freud a un symptôme, là il l'appelle symptôme l'année précédente, il n'a pas encore introduit cette différence, et là il dit que Freud éprouve la nécessité de la chaîne, d'une chaîne boromène à 4 pour faire tenir les trois ronds de la chaîne boromène à 3 qui serait ratée. Alors ça va être l'argument, le premier argument topologique que je vais vous montrer au tableau, mais quand j'aurai un tableau. C'est-à-dire de bien distinguer le cas de Joyce du cas de Freud avec cette question de comment réparer une erreur, un ratage dans un nœud boroméen. Il semblerait que le nœud boroméen, n'est-ce pas, raté par Joyce, n'est pas le même nœud boroméen raté, n'est pas le même mode de ratage que le ratage de Schreber. Ce qui fait que Freud, avec son symptôme Oedipe, suppléer au ratage de Schreber, puisqu'il il a écrit à Ferenczi: j'ai réussi là où le paranoïaque échoue. Ça, c'est une lettre de Freud à Ferenczi, quand il lui parle, quand Ferenczi lui propose de faire une nouvelle tranche d'analyse. Freud récuse cette proposition en disant: non, ce n'est pas la peine, j'ai surmonté, j'ai résolu mon conflit, le conflit que j'avais avec Fliss et la difficulté homosexuelle que j'avais avec Fliss, et j'ai réussi là où le paranoïaque échoue, écrit Freud. Bon. Il y a un article de Le Goffet où Le Goffet se moque de cette phrase. Moi, je crois qu'on ne doit pas se moquer de cette phrase, parce que je la prends effectivement au sérieux, bon, comme tout ce que...